Ils étaient d'accord de faire une conférence pour nous sur un sujet clair-obscur. Fabrice, je crois qu'il est assez connu parce qu'il a longtemps collaboré avec le magazine Astrologue. Mm-hmm. Il est journaliste, il est praticienne astrologue et tarologue. Il fait l'astrologie depuis plus que 30 ans. Il a commencé vraiment toute jeune. Et je crois aussi que c'est quelqu'un qui est passionné par la culture, par l'art, par la recherche, par... Bon, voilà.
C'est déjà très plutonien, les sirènes
ouais,
de police.
Oui, oui, oui. Voilà. C'est quelqu'un, déjà je l'ai écouté quelques fois et déjà je vois que tout ce qu'il fait c'est avec énormément de profondeur et du travail, une vraie recherche. Et on a quelque chose à tirer de... Je suis sûre que cette conférence va être formidable.
J'espère, je le souhaite.
D'accord. Donc voilà.
Quand je veux.
D'accord. Voilà.
Bien, mesdames, messieurs, d'abord bonsoir, et puis bien merci d'être venus si nombreux. Donc ce soir, ce qui nous réunit, c'est Pluton. Donc la visite va être, je trouve, très amusante, parce qu'avec Pluton, c'est une franche partie de rigolade qui nous attend. Hein. C'est quand même... Vous m'entendez bien dans le fond, là-bas, ou pas? Ça va? Parce que je peux pas parler plus haut, hein. Ça va ou pas? Oui, d'accord, merci. Oui, donc nous allons partir sur les terres de Pluton, qui est l'astre de... Je l'appelle, moi, le gardien des grands mystères, puisque c'est la planète qui nous confronte à notre part d'ombre qui habite chacun de nous. Dans la mythologie, lorsque la famille mythologique s'est partagée l'univers, on lui a confié le Tartare, le centre de la Terre, donc le monde des morts. On lui a ensuite donné un casque en peau de chien suite à sa guerre contre les Cyclopes, qui lui a donné le don d'invisibilité. Donc il y a deux notes qu'il faut retenir chez Pluton, c'est l'aspect, on va dire, ténèbre, celui qui pèse les âmes après la mort, et puis ce casque en peau de chien qui lui donne le don d'invisibilité, c'est-à-dire que ça marque en quelque sorte différentes strates des zones de l'inconscient. Il y a à la fois la partie, sombre, et puis après cette partie invisible qui vient renforcer cet aspect inquiétant de Pluton, car en fin de compte c'est le dieu auquel les hommes ne vouèrent pratiquement aucun culte, ils allèrent même jusqu'à ne pas prononcer son nom de peur de l'évoquer. Et en faisant cela, en fin de compte, ils ont participé encore davantage au refoulement de ces valeurs, puisque Pluton, c'est aussi le lieu des refoulements de chacun d'entre nous. Il est en quelque sorte, pour paraphraser un peu André Breton, cet infracassable noyau de nuit auquel nous sommes inexorablement tous, à un moment donné de notre existence, confrontés. Alors évidemment, c'est une planète aussi qui dérange, mais d'une façon très rationnelle, puisque en 2006, une part de la communauté astronomique a voulu l'écarter de la circulation. Alors évidemment, on ne peut pas le virer du système solaire, alors on a voulu le dégrader. On en a fait une planète naine. Bon. Alors pour nous autres astrologues, on s'en moque totalement. Pluton, il est là, il existe, c'est une planète. On voit très bien le rôle qu'il joue en état astrologique, mais c'est intéressant de noter cette réaction. D'ailleurs, aux États-Unis, ça avait déclenché des engouements, il y avait eu des manifestations, les Américains seuls sont capables de ce genre de choses, il y avait des manifestations avec des pancartes « Sauver Pluton ». C'était vraiment extraordinaire. La communauté astronomique a éclaté suite à cela, et en fin de compte, ça revient au... Moi, ça m'a amené à dire qu'on a voulu occulter le dieu de l'occultation. Et là, c'est intéressant également, parce que ce procédé-là, qui tend à l'écarter, le renforce. Plus on refoule Pluton, et plus il est heureux. Parce que là, il est dans son plein territoire, et il s'exprime pleinement. Et ce qui est intéressant, c'est que Pluton, qui est la planète la plus lointaine de notre système solaire, en fait... Le paradoxe, c'est qu'on veut l'écarter, mais en même temps, on va avoir une relation objective avec lui, puisqu'il y a une sonde qui a été envoyée en direction de Pluton, ce qui s'appelle la sonde New Horizon, et qui va arriver sur Pluton en 2015. Donc nous allons avoir une objectivation de Pluton. Pour la première fois, nous allons avoir un contact avec ce grand invisible. Nous allons le toucher d'une façon lointaine, mais nous allons quand même le toucher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où la sonde va arriver sur Pluton en 2015, ça correspondra au demi-cycle de Pluton si on part de la date à laquelle il a été découvert. En 1930, Pluton sera à l'exacte opposition de lui-même, il sera à son demi-cycle. C'est-à-dire qu'il va se faire face et nous allons avoir une relation un peu plus objective avec lui. On va savoir un petit peu ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Alors ça, c'est une chose. Et maintenant, moi, ce soir, ce que je voudrais un peu vous présenter, c'est en fin de compte vous présenter comment Pluton opère, agit dans la vie, les thèmes de créateurs. J'aime beaucoup travailler sur les thèmes d'artistes, de créateurs, car je trouve que c'est là où on voit le clavier astrologique se déployer de la façon la plus intéressante et la plus merveilleuse quelquefois. J'ai travaillé ces derniers temps sur les politiques. Alors, je ne veux pas dénigrer la classe politique, mais je peux vous dire que ça a été moins excitant, moins jubilatoire que de travailler sur des thèmes de créateurs. C'est clair. Les choses, tout au moins, ne se jouent pas au même niveau, tout simplement. Alors, j'ai... Gilles, tu peux aller juste sur le thème de le premier. Voilà. Alors, on va commencer par le destin de cet homme, Augustin le Sage. Vous avez toutes les indications en dessous. Alors, je tiens à vous indiquer que cette conférence, je l'enregistre, elle sera téléchargeable à partir de mon site avec le fichier PPS. Donc, vous pourrez tout récupérer, ceci afin de vous libérer de prises de notes ou autres pour celles et ceux qui le désirent. Alors, voilà Augustin le Sage, né le 9 août 1876 à 4 heures dans la région du Pas-de-Calais. Alors, cet homme-là a un destin, je ne peux pas parler plus haut, parce que sinon je vais être cassé. Si les personnes du fond ne m'entendent pas, qu'elles me le disent. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ça va? Oui, bon, alors donc c'est bon. Je reprends le fil de ma pensée. Donc voilà, Augustin le Sage est un destin qui est complètement, pour moi, teinté des valeurs plutoniennes. Alors, au préalable, je tiens à vous indiquer qu'il n'est nullement question dans mon propos de réduire le thème à Pluton. Il va sans dire qu'un thème, c'est une totalité. Hein, mais ce que je veux surtout mettre en relief, c'est la résonance qu'il a dans les thèmes de chacun, en tenant compte des interactions avec l'ensemble du thème. Alors, tu peux passer à la figure du thème. Voilà. Donc, voilà le thème d'Augustin le Sage. Alors, Augustin le Sage est né dans la région du Pas-de-Calais, c'est un fils de mineur. Et le destin de cet homme, en fait, par rapport au contexte socio-économique, est tout tracé dès le départ. Fils de mineur tu es, fils de mineur tu seras, et mineur tu mourras. Son destin est déjà complètement tracé. Il passe brillamment son certificat d'études, et à l'époque, c'était quand même un examen très important, le certificat d'études. Mais ça ne l'empêche pas pour autant d'épouser la condition sociale qui est la sienne. Et il va, à l'âge de 14 ans, descendre dans la mine. C'est-à-dire qu'il va descendre, en fin de compte, dans le monde de Pluton. Et si vous regardez ce thème, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que c'est un thème qui est, pour moi, fortement habité par des valeurs de nuit, des valeurs nocturnes. Car voilà un homme qui naît sous le signe du lion, avec une conjonction, comme vous le voyez, Soleil et Mars, voilà quelqu'un qui arrive. Bonsoir. Si, je crois qu'il y a vraiment une place. Ou sinon, il y a une chaise là. Là. Voilà, par exemple. Alors, oui, donc, je disais que ce thème est habité par des valeurs, pour moi, très nocturnes. Vous voyez, cet homme naît sous le signe du lion, qui est une valeur solaire, de rayonnement, avec quatre planètes à l'intérieur, Soleil, Mars, Uranus, Vénus. Donc le rayonnement solaire est là, très puissant, mais les planètes sont sous l'horizon. Le destin ne lui accorde pas le fait de naître un petit peu plus tard pour que ce Soleil passe l'horizon et puisse bénéficier de son plein rayonnement. Le Soleil, il est sous la Terre. Et les deux planètes qui gouvernent le monde invisible, le monde psychique, eh bien, elles vont vers la culmination. Elles vont, en quelque sorte, vers la lumière. C'est pour ça qu'il y a dans ce thème-là ce que j'appelle un paradoxe de l'éclairement. Et cet homme va passer sa vie, tout au moins sa vie est destinée à aller sous terre. C'est-à-dire que ce Pluton-là, vous voyez la configuration qu'il fait, mène le chariot de son thème. Il tire. Et à 14 ans, il fait donc sa première descente sous terre. Et là, il descend dans la gorge de Pluton. Et cette année-là où il descend dans la gorge de Pluton, sa mère disparaît des suites d'un cancer. Il perd, à l'âge de 7 ans, j'ai oublié de vous le mentionner, sa sœur, qui était âgée de 4 ans, qui répondait au prénom de Marie. Donc voilà cet homme, l'avenir tout tracé, au fond de la mine. Et inlassablement, tous les jours, il va à la mine, il creuse, il fore. Alors il faut un miracle prodigieux pour réussir à échapper à cette condition. Il faut quelque chose, parce que s'attaquer au rouage du système, ma foi, c'est téméraire pour lui. Et puis c'est pas une nature révoltée, malgré la configuration qu'on voit ici. Elle est en rétention, elle est retenue. Alors, c'est bel et bien un miracle qui va se produire, puisqu'en 1911, il a alors 35 ans. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'inlassablement, il va tous les jours dans la mine, il descend, il forge. Ni le jour, hélas, j'ai cherché, mais je n'ai pas pu trouver l'information. Il descend à la mine. Alors il faut imaginer, il descend à 500-600 mètres hein, sous terre. Il évolue dans un boyau de 60-50 cm de diamètre. Il faut imaginer ça. Il est vraiment dans le monde de Pluton, c'est un enterré vivant en fait. Et il est là, il évolue là-dedans, il est brisé, il est éreinté, et il entend des chuchotements autour de lui. Alors il est tout seul, hein, faut imaginer dans ce boyau là, serré, il entend des chuchotements. Et là, d'un seul coup, il entend une voix très claire qui s'adresse à lui et qui lui dit d'une façon très audible: bonsoir, excusez-moi, je vous en prie,
vous pouvez aller vers le fond là.
Dans les gorges de Pluton, tout dans le fond là-bas. Il vous y attend. Ça, je vous rends compte. Avec les donc, il a. Il entend cette voix qui lui dit: tu seras peintre. Alors, il est complètement commotionné, il est effrayé. Il se demande s'il ne perd pas la tête. Et les voix vont se manifester durant l'année 1911 à 3-4 reprises encore, et puis elles vont se taire. Alors, je vais faire une digression. Il est toujours très important de tenir compte du contexte et de l'époque dans laquelle un individu évolue, parce qu'on subit inconsciemment les pressions, les influences de cette époque. Et ces années-là sont des années où le spiritisme est omniprésent dans la société. On organise dans les salons mondains des séances de tables tournantes, des tables parlantes, c'est le spiritisme, ça imprègne l'atmosphère, on va dire l'inconscient collectif. Alors pour Augustin Lesage, qui est dans sa région là-bas du Pas-de-Calais, on peut penser qu'il a dû entendre quand même parler un peu du spiritisme. Et alors il va commencer un petit peu à creuser tout ça, toujours. Donc il creuse toujours dans la gorge de Pluton. Et il va rejoindre les milieux spirites. Il va quand même apprendre les techniques du spiritisme. Il va commencer à faire des dessins automatiques. Donc, la dictée automatique, l'inconscient, il fait des dessins. Et là, il va signer les dessins du prénom de sa sœur, Marie. Souvent, c'est ce genre de communication repose sur un élément affectif au départ. Ces dessins, il les signe du prénom de sa sœur, Marie. Donc, il s'adonne à la technique spirite. Et en 1912, un autre événement va se produire. Les voix vont à nouveau se manifester à lui et lui dire: bon, maintenant, le dessin, ça suffit. Tu vas passer à la peinture. Tu vas peindre. Ta peinture sera étudiée par les scientifiques. Tu ne comprendras rien, mais nous, on va te guider. Écoute-nous, suis-nous. Alors évidemment, il est encore une fois de plus perdu, cet Augustin Lesage, parce que la peinture nécessite quand même quelques connaissances. quelques rudiments. Les esprits lui disent, ne t'inquiète pas, on va tout te dire, tout te communiquer. Tu vas aller à Lille, chez monsieur Intel, vous me pardonnerez, j'ai oublié le nom, mais ça n'a pas d'importance, il lui donne le nom de la personne, et tu vas commander tel pinceau, tel pigment. Et Augustin le Sage s'abandonne à ses voies. C'est-à-dire qu'au départ, on a un destin où on a un homme qui, quelque part, se résigne à son destin, vu sa condition sociale, on ne se révolte pas dans ces milieux, on subit cette condition. D'un côté, il s'abandonnait à son destin dans la gorge de Pluton qui était la Terre, et là, il va s'abandonner dans une autre forme de Pluton, il va s'abandonner aux voies. Il ne va pas du tout, un seul instant, s'opposer à ce qui se passe. Il ne pose aucune résistance. Et il se rend à Lille, et il trouve ce personnage que les voies lui ont donné, et il va acheter son matériel de peinture, comme un artiste chevronné, il commande, et il part avec son matériel sous les bras, et il commence à peindre sur des feuilles de papier. Et là, de nouveau, manifestation des esprits, et ils lui disent, non, maintenant tu vas utiliser la toile pour travailler. Alors, il va voir un ami, et il demande à cet ami de lui procurer des toiles. Cet ami s'exécute, lui apporte une toile. Mais là, déconvenu encore d'Augustin, la toile, elle fait 3 mètres sur 3, elle est immense, quoi. Et évidemment, réaction d'un homme de faible condition au départ, il commence à vouloir découper la toile pour en faire des petits bouts, pour commencer à travailler. Et là, les esprits encore arrivent et lui disent, non, stop là, tu vas travailler sur cette toile-là, tu ne découpes pas, on va te guider, écoute-nous, suis-nous. Et donc, Augustin, une fois de plus, s'abandonne complètement aux forces obscures. Et il va commencer à travailler sur le point supérieur droit de la toile. Il va passer des mois, des semaines à se laisser abandonner et dicter ses gestes, et tout en parallèle il continue à descendre dans la mine travailler. Et quand il revient de la mine, il est éreinté, cassé par son travail, et quand il recommence à peindre, la fatigue disparaît, c'est-à-dire qu'il est complètement pris par une autre forme d'énergie qui l'envahit, et il continue son œuvre. Il va mettre 2 ans pour faire cette surface de mètres. Alors, si tu veux passer sur les derrière, alors voilà certaines de ses œuvres qu'il a peintes. Alors, ce sont des. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces œuvres en réalité. Ce sont des toiles d'une étendue gigantesque. Il travaillait sur des énormes surfaces chaque fois. Vous remarquerez une chose caractéristique, c'est la recherche de la symétrie. Toutes ces toiles sont symétriques, il y a pratiquement une fixation obsessionnelle du détail, et on sait très bien que la recherche absolue et volontaire de la symétrie répond à un besoin d'ordre intérieur, d'ordonner. Donc toutes ces toiles sont symétriques d'une façon absolument impressionnante, parce que quand on les voit de près, on a l'impression que ça a été calqué, un côté a été calqué sur l'autre, alors qu'il a tout fait à la main minutieusement.
Pas au troisième niveau, là, on voit. À droite, c'est différent de la gauche.
Oui, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même un ordre d'équilibre dans l'étoile. Il y a toujours un. Alors, il peut y avoir des. Alors, je ne dis pas que la droite est la réplique de la gauche, obligatoirement. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément un équilibre dans l'ordonnancement de la toile. Voilà. Donc, il fait ce travail. Et en 1913, tu peux revenir en arrière. Ouais. On reviendra après. En 1913. Il va cesser de peindre et il va pratiquer la guérison. Le magnétisme, il va guérir. Il y a des tas de gens qui viennent le voir, il les soigne, il les guérit. Alors, évidemment, dans ce rapport-là, Jupiter qui est ici, vous voyez, dans le signe du scorpion, c'est déjà la position du guide dans le monde des ténèbres. Ce Jupiter-là est en face de son frère, Pluton, puisque dans la mythologie ce sont des frères, il s'oppose à lui, il y a donc une volonté de percer l'obscurité, d'apporter de l'ordre. C'est très difficile dans un thème astrologique d'arriver à déceler un don, que ce soit un don de voyance, un don de guérison ou quoi que ce soit, c'est pratiquement vraiment de l'ordre de l'impossible. Hein. Moi je travaille sur les thèmes de voyants depuis de nombreuses années et j'ai pas trouvé de récurrence, de configuration, de position qui se répète par partir desquelles on pourrait, au regard d'un thème, dire tiens, c'est pas, il n'y a pas de, on est là dans un autre rapport. On peut voir un clavier symbolique, on sait que ça relève de Neptune, de Pluton, ce registre-là. Mais hormis cela, je n'ai pas trouvé de configuration récurrente qui puisse permettre de guider les choses d'une façon nette. Donc, il va guérir. Et l'ordre des médecins en 1914 va l'attaquer, comme toujours, pour exercice illégal de la médecine. Et toutes les personnes qui l'ont soigné vont venir témoigner. Et il va être relaxé. Puisqu'après tout, il n'a pas dispensé de traitement, il n'a pas dispensé de médicaments, donc il sera relaxé. Il va reprendre ensuite la peinture, il va y revenir. Il ne va plus du tout arrêter la peinture jusqu'à sa mort. Alors tu peux avancer sur les œuvres. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est, m'excuserai, mais je n'ai pas trouvé de reproduction, donc c'est très flou. Mais là, vous verrez, là, il y a quelque chose là, de... En même temps, on ne peut pas s'empêcher d'être extrêmement... bousculé par ce travail de précision, c'est pratiquement, vous voyez, il y a quelque chose là qui s'arrête. C'est un petit peu, pour moi, il y a une transposition de son état dans la mine où il était plié, coincé dans les boyaux, où il pouvait très peu bouger. Et là, quand il se met devant l'étoile, c'est pareil, il se retrouve un petit peu dans la même posture psychique, c'est-à-dire qu'il s'arrête, il reste fixé sur un point, et il travaillait au départ à petites tâches. Il était avec son pinceau, il donnait des toutes petites touches comme ça. Et il crée, alors ce sont là encore des énormes surfaces, hein, évidemment.
Ça évoque les émaux quand même, les vitraux, non ?
Donc, là, oui, c'est équivoque, mais c'est, si on voit la toile en réalité, ça ne donne pas cette impression-là. Mais à la limite, c'est votre perception, on reste toujours dans une ordre de perception spirituelle, hein, de toute façon. C'est intéressant quand on voit toutes ces œuvres qui relèvent un petit peu dans ce qu'on a appelé par la suite l'art brut, c'est que ça fait appel à ce que j'aime bien employer, la bouche d'ombre, qui est Pluton, cette fameuse bouche d'ombre dont parlait Victor Hugo. Donc ça évoque en chacun de nous quelque chose, mais quelque chose qui appartient, je dirais, au registre, on va dire, plus métaphysique ou plus spirituel. Alors pour vous, ça évoque les vitraux, bon, bah, c'est toujours intéressant à creuser de votre côté. Pourquoi ? Tu peux passer à l'autre... Ah oui, alors évidemment, il y a un problème, parce qu'il y a une œuvre que je n'ai pas réussi à trouver sur Internet. En 1938, par contre, j'ai réussi à en trouver un tirage, parce que j'aimerais que vous voyez cette œuvre. Un tirage sur Internet, vous m'excuserez cette interruption. Voilà. En 1938, il va réaliser une œuvre qui s'appelle La moisson égyptienne. C'est une œuvre énorme encore. Et en 1922, les esprits lui avaient dit, quand tu peindras les moissons de la période de l'Égypte, ton voyage vers le Nil sera très proche. Et il peint en 1938 donc là. Les moissons égyptiennes, tenez, je vous le fais circuler pour vous regarder là. Alors évidemment, elle est en noir et blanc. Je n'ai pas pu trouver de reproduction en couleur. Je l'ai scanné à partir d'un catalogue.
Et on trouve ces œuvres où ? Où est-ce qu'on les voit ?
Au musée d'art brut, si tu vas en Suisse, par exemple, tu en as beaucoup. Il y a des expositions aussi permanentes. Si tu vas à la Halle Saint-Pierre à Paris, quelquefois, il y en a là-bas, hein, vers Montmartre. Et donc, en 1938, il réalise cette œuvre. Les moissons égyptiennes. Et en 1939, eh bien effectivement, il va faire un voyage en Égypte. Il va partir en Égypte. Il va passer par Alexandrie, au Caire. Et durant la traversée, il va dire aux personnes qui sont avec lui, mes guides. Alors c'est intéressant, c'est le glissement aussi au niveau du langage. C'est que durant la première partie, c'était sa sœur Marie qui était censée communiquer avec lui. Et vers la fin, ce qui montre son abandon total au spiritisme, c'est qu'il va parler ensuite de ses guides. Ce ne sera plus sa sœur Marie. Il y aura une rupture affective, il va complètement s'abandonner. Il dira « mes guides m'ont dit ». Et c'est souvent d'ailleurs la formulation qu'emploie les spirites. C'est toujours leur guide qui leur indique ceci. Et il leur indique durant la traversée, vous allez voir, je vais trouver la stèle sur laquelle est reproduite un détail des moissons égyptiennes. Alors c'est un détail, évidemment, je ne l'ai pas sur l'écran, qui se trouve juste sur la gauche de cette œuvre, où on voit des sortes d'animaux, des chiens, sur la partie gauche. Alors ils arrivent au Caire, ils visitent les lieux, et là ils descendent dans une grotte, toujours sous terre, hein. C'est là que ça joue chez lui, à la fois la grotte extérieure et son temple intérieur. Et là, eh bien, la stupéfaction, ils vont découvrir une stèle sur laquelle, à peu près trait pour trait, est représenté ce qu'il a mis sur son tableau. Alors, sa renommée va aller grandissante. Il va exposer dans les grands musées. Il va réaliser en tout à peu près 800 œuvres. Il va être étudié par les plus grands scientifiques. Il sera contacté par les spirites de son époque, le docteur Hostie. Il rencontrera Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui pratiquait le spiritisme. Bref, cet homme-là, qui était voué à un destin tracé dans les mines, à un destin, je dirais, international, puisque en même temps, l'aspect révolutionnaire quand même de cette œuvre, c'est qu'il va pratiquement inaugurer trois grands courants de peinture du XXe siècle. Il va à la fois inaugurer le surréalisme par le fait qu'il s'abandonne au geste automatique pour la création. Il va inaugurer l'art brut, qui aura été complètement développé par Dubuffet. Et puis une partie de ce que certains ont appelé, bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, certains le qualifient d'art naïf, je trouve qu'on est un petit peu loin de l'art naïf quand même, hein. Ça me semble assez, c'est pas très 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 juste, mais enfin bon, bref. Il a annoncé ces trois grands courants de peinture. Il va mourir le 21 février 1954, si tu veux revenir sur la carte du ciel. Alors, je n'ai pas étudié tous les transits parce que sinon ça demanderait de faire carrément une conférence entière sur lui pour étudier chaque étape de sa vie. Mais toujours est-il que pour sa date de disparition, j'ai quand même jeté un coup d'œil pour le 21 février parce que là on a une date précise alors que tout le restant, nous avons des années sans mois, sans rien, donc c'est très très difficile de pouvoir serrer des configurations. Donc pour cette période de 21 février 1954, Pluton, celui qui était prêt à tout lui prendre, qui lui a pris beaucoup, il lui a pris sa sœur, sa mère très jeune, au moment où il va rejoindre Pluton, sa mère disparaît, Pluton transitait sa conjonction Uranus, Mars, Mercure à ce moment-là. Et Saturne, lui, se promenait dans le signe du Scorpion à l'opposition de Neptune. Alors évidemment, vous me direz, le transit de Saturne à l'opposition de Neptune ne s'est pas produit qu'une seule fois dans sa vie, bien sûr, mais là il se trouve conjugué au transit de Pluton. Nous avons là le couple mythique, le père et le fils qui arrivent, et Saturne part de la maison 8, il est chargé des valeurs de Neptune, là il va s'opposer au gouverneur de la maison, au gouverneur de Saturne par exemple, pardon, qui se trouve dans le signe des poissons. Donc voilà un destin pour moi qui est dans sa tonalité de fond et durant toute son existence, totalement tatoué par Pluton. Alors certes, il y a l'intervention de Neptune, bien sûr, il y a l'intervention de la totalité du thème, mais la planète qui va, pour moi, mène sa vie, c'est Pluton. Voilà, on va passer au suivant. Alors oui, regardez, pardon, il y a d'autres œuvres à voir, excusez-moi, non, c'est... J'ai été un peu parlé, alors. Hein, mais c'est très difficile de retrouver des bonnes reproductions de ces œuvres. J'ai pas pu scanner tout ce que j'avais parce que j'ai un livre et j'aurais été obligé de le casser, alors je préfère éviter quand même. Alors là, on passe à un autre personnage, c'est Victor Brunner. C'est un peintre roumain. Né le 15 juin 1903. L'heure est inconnue, mais ce n'est pas très très grave pour l'objet de la conférence. Il est né en Moldavie. Ouais, tu peux passer sur le thème, voilà. Donc nous avons un personnage qui est né sous une conjonction Soleil-Pluton, opposé à Uranus, le Soleil est encadré par Neptune-Pluton. Alors j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, quand j'ai fait la digression sur le spiritisme, évidemment, le spiritisme remonte à l'aube de l'humanité, mais tout au moins formulé comme tel, le spiritisme est parti des États-Unis suite aux événements des Sœurs Fox. Et en France, il y a un personnage qui va codifier le spiritisme et qui va devenir en quelque sorte le pape du spiritisme. C'est Hippolyte Léon Denisard Rivail, qui était un homme de formation scientifique. Il avait été disciple et élève de Johann Heinrich Pestalozzi, qui était un grand pédagogue. Allan Kardec est monté sur Paris à l'âge de 20 ans. Il a ouvert un cabinet à Paris. Il a commencé à enseigner. Il enseigne la chimie. Bref, une formation très carrée, très rationnelle. Et c'est l'époque d'étape tournante. Ça tourne partout. Ça tourne. Et quelqu'un lui dit, tu t'es jamais intéressé un peu au phénomène spirit? Et Hippolyte Léon Rivail répond, le jour on me prouvera que un guéridon a un cerveau pour penser, un système nerveux pour se mouvoir, je reconsidérerai ma position. Donc la réponse était claire. Mais toujours est-il que l'engouement est tel, sa curiosité est attisée, et il va assister à des séances en tant qu'observateur. Et là, alors, durant une séance, le médium s'adresse à lui et lui livre un message. Et il est troublé par ce message. Il habitait à ce moment-là rue des Martyrs. Et un soir, chez lui, il est en train de travailler, comme tous les soirs, et il entend des coups sourds dans les parois de son mur, très sourds. Alors au début, il met ça sur le compte du voisinage, et puis les coups se répètent. Et les coups sont très sourds, c'est-à-dire qu'ils viennent de loin. C'est des coups qui ne sont pas des marteaux matériels, c'est des marteaux spirituels qui frappent autre. Ça résonne dans les parois des murs. Et là, il a le réflexe, sans trop y croire, il prend une feuille de papier et il se laisse aller à l'écriture automatique. Et là, il entre en communication avec un esprit qui s'appelle Zéphyr. Et avec Zéphyr, il va communiquer une grande partie de sa vie, il va constituer ce qu'on appelle la Bible du spiritisme. Donc il va apprendre par cet esprit qu'il a habité jadis, d'une autre vie, la Gaule, qu'il était druide et qu'il s'appelait Allan Kardec. Et il va prendre le nom d'Allan Kardec. Et donc il va écrire Le ciel et l'enfer, l'évangile selon le spiritisme, le livre des esprits, le livre des médiums, etc., etc. Et d'ailleurs, son rayonnement va devenir international. Si vous allez au cimetière du Père-Lachaise à Paris, allez faire un petit tour, sa tombe, c'est un véritable dolmen. Sur la pierre transversale est écrit « Naître, mourir, renaître encore, telle est la loi ». C'est un lieu de procession, des personnes du monde entier viennent sur cette tombe. C'est la tombe la plus fleurie du cimetière et celle qui demande le plus d'entretien. Moi, j'ai assisté à des choses inouïes sur cette tombe. Des gens en pleurs, il y a sa stèle en bronze au milieu et des gens qui enveloppaient cette stèle, c'était assez poignant. Et donc, ce que je voulais vous dire, parce que je vous préviens, j'ai ce que j'appelle une pensée gigogne, je vais quelquefois de digression en digression, donc c'est comme les poupées gigognes, il y en a une, il y en a une autre. Donc rassurez-vous, tel le chat, je retombe sur mes pattes. Donc je vous parle de cet homme, d'Allan Kardec. Parce qu'Allan Kardec était né, il fait partie de la génération de Pluton dans le signe des poissons et de Neptune dans le signe du scorpion. La réception mutuelle des deux planètes psychiques, l'une épousant le signe de l'autre. Et là, nous avons donc, je reviens à Victor Brunner, vous voyez, je n'ai pas perdu le fil. Et Brunner a un soleil, donc ce peintre romain encadré par Neptune-Pluton. Ça se passe dans le signe des Gémeaux, opposé à un Uranus. Il s'agit d'elle. Alors l'heure est inconnue, donc ne vous fiez pas à la domification, la carte du ciel a été faite pour 12 heures. Alors là aussi c'est un destin qui est là aussi prémonitoire, mais à un autre titre. Donc il y a 4 enfants dans la famille, son père tient une usine de bois. L'enfance se passe en Moldavie avec toutes les vicissitudes politiques qu'il y a à l'époque. Et il y a un premier événement qui va le marquer, qui va cristalliser en lui à la fois l'approche tragique et merveilleuse de la perception de la réalité qui va infléchir toute la suite de son existence. Cet événement se produit en 1907, c'est le passage de la comète de Halley. Le père de Victor Brunner, qui est théosophe, poète, voit dans l'arrivée de cette comète de Halley la fin du monde. Alors vous imaginez toute la famille vêtue en costume de cérémonie, serrée les uns contre les autres devant la fenêtre, et ils attendent la fin du monde. Et la fin du monde va se manifester par une très belle boule bleue qui va traverser le ciel, tout simplement. Mais cet événement, pour moi, compte tenu du psychisme de Victor Bonheur, va déjà cristalliser, fixer quelque chose en lui. Ensuite, je passe les mouvements géographiques dus aux événements politiques qu'il y a eu en Moldavie. Son enfance est donc assez mouvementée, il se déplace beaucoup. Et en cachette, enfant, il va assister à des séances de spiritisme, des séances de magnétisme qui sont organisées par son père. Son père convoque des magnétiseurs. C'était l'époque du somnambulisme. Et le petit Victor, qui est là, dans un coin, il assiste à ces séances qui vont créer, là aussi, une imprégnation psychique sur lui très forte. Vers l'âge de 14 ans, 13-14 ans, il se découvre sa vocation, il décide de devenir peintre. Il en parle à son père. Et le père, lui, ne voit pas la chose d'un très bon œil. Et donc, il ne veut pas aider son fils en ce sens. Il refuse donc de lui donner de l'argent pour qu'il puisse acheter le matériel. Alors Victor Bronner, lui, il ne s'en laisse pas compter. Hein. Il faut voir quand même qu'il y a une opposition Soleil-Uranus, là, sur l'axe d'horizon. Enfin, pardon, il n'y a pas d'horizon du tout. Pardonnez-moi. Alors il va se constituer un petit chevalet de fortune, tout simplement. Il va se procurer des couleurs, une toile, et puis il va répondre à l'appel de Pluton. Il va aller peindre dans les cimetières. Comme ça, il est tranquille, il est peinard, ça fait pas de bruit, le voisinage n'est pas dérangeant, il part là, dans les cimetières, personne ne vient le déranger, et il est en fin de compte dans son monde avec Neptune, Pluton, il est parfait. Loin de son père, tranquille. Et il va être frappé, parce que sa vie est ponctuée de signes, de rendez-vous, il va être frappé par une tombe sur laquelle il y a des signes kabbalistiques. Ces signes kabbalistiques vont le marquer, parce qu'on va les retrouver dans ses œuvres futures. Alors, tu peux passer sur les œuvres après tout, parce que... Sur opposition. Et l'opposition. Oui ?
Vous l'interprétez comment dans ce thème ?
Ah ben, je vais y arriver, justement, je vais vous répondre. Alors, c'est l'une des œuvres qu'il a réalisées. Hein. Donc là, s'il y a parmi vous des amateurs du tarot, vous avez reconnu la libre interprétation du Butler. Alors évidemment, Victor Bronner a emprunté au clavier hermétique, au clavier ésotérique, mais il a tout réinterprété à sa façon. Donc là, vous avez le Butler, et puis il l'a baptisé le surréaliste, et à côté, vous avez les messagers du nombre, ou les amoureux. Donc c'est l'alliance du Butler et de la papesse. Voilà. Réinterprété à la Victor Bronner, bien sûr. Alors, je ne vais certainement pas m'aventurer à expliquer le pourquoi de ceci et cela, parce que ça serait complètement, je pense, dénaturer la pensée de Bronner, qui est « cette œuvre garde son mystère, sa propre clé ». Et je déteste faire ce genre de choses, c'est comme ceux qui vous décortiquent un poème pour vous le faire aimer. Hein. Donc, par contre, il y a une chose, vous avez là un chiffre, vous voyez 1713 en bas, et en définitive, ce sont des initiales AB. Parce que si vous rapprochez le 1 du 7 et le 1 du 3, ça forme AB. Et c'était un tableau qui était dédicacé, destiné à André Breton, AB, des initiales. Et 1713 était aussi la façon dont, quelquefois, Breton paraphait ses textes. Alors, vous voyez, vous avez une idée un petit peu de l'univers pictural de Victor Bronner. Tu peux passer au suivant. Voilà. Donc c'est un monde qui est à la fois fascinant, inquiétant, mais en même temps il n'y a pas de répulsion. On n'est pas, enfin c'est très subjectif, peut-être que vous le ressentez différemment, mais personnellement c'est pas un univers qui inquiète. Il intrigue, il questionne, mais il ne provoque pas un effroi. C'est pas un univers qui crée une répulsion. Parce que nous avons quand même quelqu'un qui est né sous le signe du Gémeaux, il y a un soleil Gémeaux à l'intérieur, il y a quand même un air Gémeaux, une légèreté Gémeaux. Il y a quelque chose qui anime ces toiles, il y a toujours un souffle et aussi un grand, grand amour des couleurs. Les toiles sont toujours très colorées, mais elles ne sont jamais sombres. Et ça correspond, entre autres, à l'opposition Soleil-Uranus, vous me posiez la question. d'une part ce besoin de lumière, d'éclairage, puisque Uranus c'est le dieu du ciel, c'est Uranus, et puis en même temps parce que Victor Bronner était un révolté total. Il a rejoint l'école, l'académisme, il a foutu le camp parce qu'il a été totalement indiscipliné, il ne supportait pas l'académisme, donc il a été, on dit, soit il a été renvoyé, soit il est parti lui-même, toujours est-il qu'il rompait avec tous les académismes. Il était libre, et il a été libre en fin de compte toute sa vie, puisque même à l'univers symbolique auquel il s'est beaucoup référé, il l'a transformé et réinterprété lui-même. Alors Bronner va continuer son itinéraire, et comme je vous le disais, sa vie est ponctuée de signes. Tu veux passer après? Alors ça c'est le loutable, hein, c'est très plutonien, vous pouvez le voir au centre Georges Pompidou, hein, cette œuvre est exposée en permanence, c'est le loutable, donc ses œuvres étaient souvent en diffusion d'animaux et d'êtres humains. Voilà une œuvre, ma foi, on a envie de s'y attarder à distance, hein, pas trop s'approcher. Tu peux pas faire la suivante? Voilà. Alors ça, c'est l'autoportrait à l'œil nickelé. Alors ça, c'est une histoire extrêmement troublante. Bronner, dans les années 30, va réaliser toute une série d'autoportraits dans lesquels il a un œil mutilé. Quand il est arrivé à Paris, sa première arrivée à Paris, il est hébergé par le sculpteur Brancusi, qui avait l'habitude de recueillir tous les ressortissants roumains, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Et à l'aide d'un appareil photographique Kodak, la nuit, Bronner va faire des photos. Il hante les rues du Paris la nuit. Et un soir, il voit une scène assez étrange. Il voit un boulevard du Montparnasse, donc pas très loin d'ici, un homme au milieu de la rue avec une chaise. Il y a une femme qui est assise sur la chaise et il est en train de lui bander les yeux. Et il trouve cette scène tout à fait étonnante et il prend la photo. Et derrière, il y a un numéro de rue, c'est le numéro 38, boulevard du Montparnasse. Cette scène se passe dans les années 20. Je saute le temps. Années 30, il peint toute une série de toiles à l'œil nucléé, dont celui-ci qui est l'aboutissement de son œuvre, pour cette série. En 1933, lors d'une soirée chez des amis, chez Oscar Dominguez, tout un groupe surréaliste, il y a une altercation qui éclate entre deux personnes. Victor Bronner veut s'interposer, veut les séparer. Bref, le ton monte. L'un des deux protagonistes s'empare d'un verre, veut le balancer en direction de l'intéressé. L'intéressé l'esquive et le verre arrive en plein sur le visage de Victor Bronner. Il est uniclé, il perd un œil. Donc, et le lieu où se passe cet accident, c'est au 38 boulevard du Montparnasse, c'est-à-dire l'endroit qu'il a photographié 10 ans plus tôt, où s'est tenue cette scène de cette femme à qui on bandait les deux yeux. Alors là, il y aurait toute une étude à faire sur le rapport du peintre avec l'œil, parce que là, on peut faire un énorme travail de recherche là-dessus symbolique. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, il va faire tout un travail de recherche, puisqu'il va considérer que toutes les œuvres qu'il a peintes avant étaient prémonitoires, annonçaient cet accident tragique. Donc, il va être l'œil à un seul, le peintre à un seul œil après. Alors, ça ne l'empêchera pas de continuer son œuvre. Hein. Tu peux revenir, toutes ces œuvres-là après son. Ça, c'est une œuvre qu'il avait peinte pour la grande exposition surréaliste, c'est dans les années 40. Il va continuer son travail, il ne va pas du tout déroger à ses recherches. Il ira, durant la guerre, se réfugier au cellier du Rousset. Il continuera son travail, il va travailler à la cire et à la bougie, la cire d'abeille et à la bougie. Et il ira visiter la maison de Nicolas Flamel. Alors évidemment, vous pouvez imaginer, chez un homme qui est pétri de symbolisme, de résonance occulte, aller visiter la maison de Nicolas Flamel, ça a eu énormément de résonance sur lui, puisqu'au moment où il sort de la maison, va éclater un orage terrible, et comme il est amoureux des signes, évidemment, il va rentrer dans un délire, encore, ça va l'amener à créer toute une série d'œuvres, une fois de plus, tout à fait troublantes, et il va découvrir l'œuvre de Marguerite Séchet. Marguerite Séchet est une psychanalyste de l'école suisse, et qui avait beaucoup travaillé sur les schizophrènes, parce que Victor Brunner avait beaucoup de recul sur lui-même. Il estimait qu'il était quand même pas tout à fait équilibré. Bon, mais la loi de l'équilibre, ce sont des critères qui relèvent des sociétés, hein. On décrète que ça c'est normal, ça ne l'est pas, mais enfin, il estimait la schizophrénie le passionnait beaucoup, et Marguerite Séchat avait beaucoup travaillé avec les schizophrènes, et elle avait trouvé une méthode pour arriver à les soigner qui s'appelait la réalisation symbolique, qui a donné lieu à un ouvrage qui a été publié dans différentes revues psychanalytiques suisses. Et ensuite, elle a fait appel à l'une de ses patientes, une jeune femme qui s'appelait Renée, et qui, a été soignée par la technique de Marguerite Séchat. Et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle « Le journal de schizophrène », qui est un livre tout à fait passionnant à lire, parce qu'on a le témoignage d'une schizophrène. Et elle raconte le périple qu'a été sa maladie. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'absolument terrible, parce qu'en fin de compte, elle était prise dans une souffrance abominable, mais elle nous restitue des choses qui sont pratiquement des tableaux surréalistes. C'est-à-dire que la manière dont elle percevait la réalité, c'était pratiquement les tableaux que peignait Brunner. Donc, la découverte aussi de cette psychanalyste et de ce livre a eu un grand, grand retentissement sur lui. Ouais. Alors, on peut revenir au thème. Voilà, alors donc, là, évidemment, comme je vous dis, l'heure est inexacte, mais la Lune est dans le signe du Verseau. Bon, je l'ai mis pour midi, on peut supputer qu'elle resta encore dans le signe du Verseau. Hein, c'est pas encore échappé. Hein.
C'est sûr.
Peut-être avant, elle est là, elle n'a pas bougé pour midi. Pardon, je vous cache le thème à chaque fois, je suis désolé. Donc, c'est surtout cet encadrement là-haut de ce Soleil encadré par Neptune-Pluton. Parce qu'il va créer un personnage qui va s'appeler Conglomeros, qui est un conglomérat d'hommes et d'animaux. On est dans une forme de lycanthropie. D'ailleurs, on a eu le loutable tout à l'heure. La lycanthropie nous ramène à Pluton, toujours. Et Conglomeros, c'est un conglomérat de personnages hybrides, femmes-animal, c'est tout un mélange. Donc on a là, dans cet encadrement du Soleil, cette fusion entre le merveilleux, l'inquiétant, l'étrangeté, qui est là. Et quand il va créer Conglomeros, j'ai essayé de regarder les périodes, c'est au moment où la conjonction Soleil-Pluton se reforme. Ça le prend en pleine nuit, c'est en juillet, il se réveille, et il a cette inspiration, et il va créer, ipso facto, tout de suite, ce personnage de Conglomeros. Lorsqu'il va décéder en 1966, Pluton se mettra avec Saturne à l'opposition de sa conjonction Soleil-Pluton natale. C'est-à-dire que là, on aura encore l'abandon total à Pluton. Saturne sera lié à ça, le père, les deux seront ensemble. C'est-à-dire qu'il avait fait de la devise « Je cherche l'or du temps », sa devise aussi. Donc on a là le rapport de Saturne, qui est le temps, qui est aussi celui qui est la quête de la vérité, qui s'oppose au Soleil, qui est le symbole aussi de l'or.
Donc on a carré. En 66, c'est le carré.
J'ai dit quoi, opposition ? Ah oui, pardon, désolé. Excusez-moi, c'est un carré. Il y avait une dissonance, voilà. Je vais m'en sortir par une millimètre. Il y avait une dissonance, voilà. Donc, merci. Donc, il y a là une restitution de tout ce qui a été son œuvre. Pluton, là, une fois de plus, comme j'ai toujours, Pluton, lorsqu'il nous donne quelque chose, il nous demande souvent en retour d'abandonner quelque chose. Et ce qu'il nous demande d'abandonner, c'est souvent de façon totalement irréductible. On n'y revient pas. C'est vraiment ce qu'on appelle la petite mort. Voilà ce que je peux vous dire, parce que j'en ai encore d'autres derrière. Bon, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, mais ça, c'est vraiment les choses les plus marquantes. Il y a le docteur Pierre Mabille qui était franc-maçon, qui a fait une très belle étude sur l'œil nucléé que vous trouvez dans la revue Minotaure, mais la revue Minotaure maintenant ne la trouve plus, mais vous pouvez trouver cette étude-là aux éditions José Corti, mais par contre je n'ai plus le titre de l'ouvrage, où il a fait une étude magistrale sur les rapports à la fois psychanalytiques et ésotériques de cet événement.
Il y a aussi une autre résonance qui est Odin dans la mythologie nordique.
Oui.
Il y a un dieu Odin,
oui,
qui a un seul œil.
Oui. Ah, mais de toute façon, effectivement, toute sa vie a été complètement menée par le mythe, parce que de toute façon, c'est le mythe qui engendre la réalité, tout au moins c'est lui qui donne sens à notre présence au monde. Hein. Donc toute sa vie a été complètement menée par le mythe, complètement. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre derrière, une autre œuvre. Non, je crois que c'est fini.
Non.
Alors maintenant, alors Magritte. Alors Magritte, écoutez, bah, ce n'est pas une découverte, vous le connaissez tous, Magritte. On a tous vu une œuvre de Magritte, quelque part. Donc, il est né le 21 novembre 1898. Tu peux passer au thème directement, la figure du thème. Voilà. Alors Magritte, bah, c'est un curieux personnage. Hein. Voilà un homme qui naît sous le signe du scorpion. Il a un Pluton qui est au coucher, là-bas. Ça prête à se coucher, il n'y est pas encore, mais il se dirige vers le coucher. Il est dans une ligne de tension très importante, à Saturne, Vénus, Mercure, ici. Et cet encadrement, évidemment, à ne pas négliger Soleil-Uranus, qui va donner toute l'iconoclastie, l'originalité, la marginalité du personnage, qui sera complètement déroutant toute sa vie. Donc là, on a encore un homme qui est habité par des forces nocturnes, mais qui va parvenir à les plus ou moins les contrôler, en jouer même, puisque Magritte va se jouer de l'image, va se jouer de la réalité sans arrêt. Alors, il y a un événement, quand même, qui va aussi le marquer, c'est sa mère était extrêmement dépressive et suicidaire. Nous avons une lune dans le signe du poisson, là, qui est en dissonance à Uranus. Alors ça ne veut pas dire que quand on a une lune en poisson, on est forcément appelé à être déséquilibré et suicidaire, hein, je vous rassure, etc. C'est pas de délire d'interprétation, mais tout au moins chez Magritte, ça a résonné comme ça. Sa mère était dépressive et elle a fait plusieurs tentatives de suicide et toujours par l'eau. L'une d'entre elles, elle a essayé de se noyer dans la cave de leur maison sans y parvenir. Et puis un jour, elle va réussir, elle va en pleine nuit se lever en chemise de nuit, elle va partir et elle va se jeter dans la Sambre, elle va se laisser couler et on la retrouvera 17 jours plus tard avec sa chemise de nuit sur le visage. On va ramener le corps à la maison des Magritte et elle sera enterrée le lendemain. Et lui, il assiste à tout ça. Et là, il va complètement ensevelir cet événement. Il n'en parlera jamais. C'est-à-dire que même à sa compagne, Georgette, avec laquelle il est resté lié toute sa vie, il ne dira jamais un mot de cet événement. Il a juste fait une confidence, paraît-il, à Louis Kutner, où il a raconté cet événement et il a eu cette ironique et typiquement scorpion. Il a dit « J'ai été très fier de voir que nous avons été le centre d'intérêt pour un événement si tragique. » Donc là, on a quelqu'un qui refoule complètement cet événement. Bon. Mais cet événement va quand même apparaître de temps en temps dans ses toiles. Et à chaque fois qu'il y a une toile de Magritte qui met en contact avec l'eau, elles sont toujours inquiétantes. Bah, certaines me font froid dans le dos. Si tu veux bien avancer, j'en ai choisi une qui à chaque fois, moi personnellement, continue. Continue. Voilà. Alors moi, celle-ci-là, je dois vous dire qu'elle me met extrêmement mal à l'aise. On a le derrière, on a une apparence de vie dans le fond, et là, on a ces personnages aquatiques qui sont momifiés. On a l'impression qu'il y a eu une attaque atomique, quelque chose qui est tombé, ils ont été pétrifiés, ils sont là sur le bord. Ce sont des poissons, ils sont sur Terre et ce sont des poissons de pierre. Là, il y a quelque chose pour moi qui est en résonance avec l'aspect dramatique que représente la mer, et donc la mer, dans l'exception large du thème, M-E accent grave R-E et M-E-R. Hein. C'est une toile qui me... Et il y en a une autre, il y en a beaucoup, vous verrez dans Magritte, un poisson qui est échoué sur une mer, un bord de plage aussi, qui est extrêmement... qui met très mal à l'aise. Alors si tu remontes, oui, mais remonte, oui. Alors, Magritte va faire une rencontre dans son enfance, découvrir une œuvre qui va avoir un grand retentissement sur lui. C'est une œuvre de Giorgio de Chirico qui s'appelle Les Chants d'amour. Alors là aussi, j'ai oublié de vous la mètres, mais par contre, j'ai trouvé une reproduction que je vais vous faire circuler pour que vous puissiez la visualiser. On va trouver ces notes. Voilà. C'est celle-ci. Vous l'avez sans doute tous déjà vue. Je vais la faire circuler. Donc, Magritte va voir cette toile de Quirico. C'est la période métaphysique de Quirico. C'est certainement sa période la plus intéressante parce qu'après, ce qu'il a fait, ça a été de la répétition de ses créations antérieures et la fin de l'œuvre était beaucoup moins intéressante. Et il va se rendre compte, il va avoir un choc, il va se dire, tiens, on peut arriver par la peinture à représenter la pensée. Ce qui n'est pas un moindre paradoxe. Mais par pensée, c'est pas l'image, c'est vraiment la pensée. Et ça, ça va être la pierre de touche de l'œuvre de Magritte. Car vous voyez que Pluton, là, dans ce thème, est en rapport quand même avec Mercure, Mercure qui n'est pas loin de Saturne. Alors si tu peux avancer, Gilles, s'il te plaît, tu vas aller jusqu'à la toile. Ceci n'est pas une pipe.
Ah oui.
Ça s'appelle la trahison des images, ou ceci n'est pas une pipe. Alors ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est une clé pour comprendre Magritte, mais tout au moins, elle est révélatrice de toute son œuvre. Voilà une pipe. Il la dessine d'une façon hyper réaliste, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. En dessous, il met « ceci n'est pas une pipe ». Il la nomme tout en la niant et en la représentant. Alors, moi, cette toile-là, elle m'amuse toujours parce que ça a été un choc durant mon enfance. J'étais à l'école chez les curés parce que j'étais un petit peu emmerdant quand j'étais enfant. Donc mes parents étaient obligés de me mettre un petit peu dans les écoles religieuses pour me cadrer. À mon avis, ça n'a pas réussi. Et il y avait une bibliothèque. Et un jour, je m'empare d'une anthologie de la peinture. Je feuillette et je tombe sur Magritte. Et l'univers de Magritte, un univers d'enchantement. Quand on va avec des enfants à une exposition de Magritte, les enfants s'éclatent complètement. Ils parlent vraiment à l'instinct, à l'enfance. Et je tombe sur cette toile. Et je suis là et je me dis, oh mais c'est dingue, ce gars il dessine une pipe, il dit que c'en est pas une. Je me dis, alors qu'est-ce que c'est? Et il nous invite donc à transformer la réalité. Parce que, en fin de compte, dès qu'on nomme une chose, on lui attribue une fonction. Et lui, il veut complètement déstructurer tout ça. C'est là où on voit sa conjonction Soleil-Uranus qui intervient. Et puis l'opposition Pluton à Mercure. Parce qu'en fin de compte, il va y avoir un glissement. C'est aussi une révolution sémantique, Magritte. En plus d'être un travail de peintre, Philippe Solaire, un jour, dans une émission de télé, a dit « Magritte, c'est pas un peintre ». Bon, puis il n'a pas étayé plus loin. Alors, moi, à la limite, je suis tout à fait enclin à l'admettre, mais il faut étayer le propos. Alors, c'est vrai que, sur le plan de la peinture, c'est pas le peintre le plus bouleversant qui soit, mais il faut voir l'ensemble et la démarche de l'artiste. Il fait une révolution sémantique, car ce n'est pas une pipe, donc ça veut dire qu'il faut reconsidérer cet objet et une autre fonction dans la réalité. Et moi, enfant, ça m'a complètement secoué, puisqu'après, à la cantine, au lieu de demander la carafe d'eau, je disais à mes copains, passe-moi le tabouret. Et je me suis beaucoup amusé comme ça, et ça a inquiété les chers frères des écoles chrétiennes, qui un jour ont convoqué mes parents en disant « Votre enfant va mal ». Et ils m'ont demandé « Mais où avez-vous vu ça ?» Ben, j'ai dit « C'est Magritte ». Et là, c'était sacrilège. Ça, c'est une anecdote, parce qu'en fin de compte, cette toile-là, il a été un jour interviewé, il a dit « Mais écoutez, j'ai fait une pipe, mais est-ce que vous pouvez la bourrer, cette pipe, et est-ce que vous pouvez la fumer ?» Et il dit « Donc, si j'avais écrit que c'était une pipe, j'aurais menti. » Donc, on est vraiment... on est dans quelque chose, ça veut dire que l'image n'a jamais été la réalité. Et qu'il faut justement, à partir de ce moment-là, la reconsidérer et la transformer. Et c'est en ça qu'il a été surréaliste. Profondément surréaliste, même s'il a eu des rapports houleux avec le groupe, parce que c'est un homme complètement c'était un type complètement ingérable, hein. Et alors il avait une vie très rangée, hein. Il était extraordinaire, toujours habillé en costume, chapeau melon, une vie très ordonnée. Il n'avait pas d'atelier, il peignait quand même des grandes surfaces. Hein. Il n'avait pas d'atelier, il attendait que Georgette débarrasse la table, puis il mettait le tableau sur la table, et puis il essayait de peindre tant bien que mal, et s'il n'y avait pas de place, bah tant pis, il se faisait tout petit. Donc c'est un personnage complètement atypique, Magritte. Et tu peux avancer là, juste, j'ai reproduit quelque chose qui est un clin d'œil, vers ça on va y revenir après. C'est le casino à Knoth-le-Zoute. Voilà. Alors ça, c'est un clin d'œil. Vous voyez, ce monsieur très rangé, hein, au-dessus de tout soupçon, quoi, quand même. Hein. Et vous voyez, il y a un billet qui est reproduit en haut à droite. Alors je l'ai mis parce que Magritte a été, à une époque, accusé d'avoir fait des faux billets. Faux monnayeur. Et moi, je trouve ça très, très séduisant, hein, personnellement. Ça me plaît beaucoup. Donc il a été pris dans une affaire de ce type. Bon, ça n'a jamais abouti, mais je vois tout à fait le personnage capable de faire ça uniquement pour faire un pied de nez au système. Alors, tu reviens un tout petit peu, Gilles, en arrière. Voilà. Alors ça, c'est le pays, le domaine de l'enchantement. C'est la décoration du musée de Knoth-le-Zoute. Une commande qui lui a été passée.
Le musée ou le casino ?
Le casino. Excusez-moi. Le casino. De Knoth-le-Zoute. Tu peux passer, il y en a une autre. Alors. Voilà. Donc là, on retrouve tout l'univers de Magritte. Et il y a aussi cette toile qui est l'Empire des Lumières. Tu peux descendre, s'il te plaît. Non,
elle est plus haut, je crois.
C'est vrai ? Ben vas-y, si elle est plus haut. Ça, le vieux, je vais y revenir. Mais voilà. Bon, alors là, on est quand même dans quelque chose, dans quelque chose qui est très scorpionesque, qui est très plutonien. Hein. Là, j'ai même pas besoin de m'étendre. Ce sont des cercueils, en plus, j'ai pas envie. Mais vraiment, là, on est... Alors là, il y a toute une série hein, de cette œuvre, l'Empire des Lumières. Il y a plusieurs toiles hein, comme ça qui sont déclinées. Et là, vous avez les cercueils bon, bah, qui rappellent. Mais alors là, c'est pareil, il y a toujours une ironie chez.
C'est le balcon, non C'est le balcon de Manet, non
Oui.
Mais cette série-là, il y en a plein.
Il y en a plein de tableaux, c'est ce que je dis, oui. Oui.
Il
y a
plusieurs. Magritte, en avait 6 ou
7. Oui, oui, c'est ça. Oui, il a décliné plusieurs séries comme ça, absolument. Alors, vous voyez, il y a toujours quand même un petit rappel à la vie chez Magritte. Il y a des cercueils, mais là, il y a un petit pot. Il y a toujours quand même une porte ouverte. Le soleil a passé quand même l'axe d'horizon dans son thème. Là, il y a quand même une recherche de lumière, quoi qu'il en soit. On n'est jamais totalement inquiet. On est plutôt amusé, intrigué par Magritte. Hormis certaines toiles, qui, moi, me déranger, mais... hormis ça, c'est quand même un peintre qui a révolutionné le rapport avec l'image, avec une tonalité scorpionesque au fond, qui est teintée, parce qu'on voit, vous voyez, on n'y échappe pas, hein, on pourrait en parler, de toute façon, on ne s'en lasse pas, on peut projeter une soirée comme ça et on s'amuse. Alors, il avait aussi une technique pour donner le titre à ses œuvres, il réunissait tous les membres du groupe surréaliste belge, et... il faisait un brainstorming. Et en fonction de ce qui était arrivé, il faisait un collage et il créait des titres. Alors, ce n'était pas toujours lui qui attribuait les titres, contrairement à ce qu'on raconte. Hein. Voilà. Ouais, alors, le viol, évidemment, là, c'est une toile qui a fait le tour du monde, hein, qui a été reproduite sur moult couvertures de livres, etc. Là, on est dans quelque chose là, sur lequel on peut passer des heures. On est dans un monde à la fois très scorpionesque, où là, on ne peut pas dire qu'il y ait une négation du corps, il y a plutôt une interpénétration des choses. Il y a cette chevelure qui va marquer la féminité, un corps de femme, mais elle n'a pas de visage, elle est réduite uniquement à son corps, pardon. Ça reste une œuvre pour moi extrêmement mystérieuse. Je ne vais pas m'embarquer dans une explication, puisqu'à chaque fois je change d'opinion quand je retourne sur le tableau. J'ai pas d'idée arrêtée, mais on est dans un monde quand même très scorpion. Et puis c'est le viol, c'est l'agression également, le titre, très, très fort. C'est une toile qui fait tout de suite résonance à l'inconscient et au psychisme. Elle ne laisse pas neutre.
Excusez-moi, mais. Ça s'appelle le viol, mais où est-ce que vous trouvez un viol là-dedans ?
Bah, c'est lui qui l'appelle. Oui, c'est à vous de voir.
Oui, mais
vous
savez, on le voit pas.
Bah, oui, mais justement.
On peut le voir de manière très claire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un visage, la femme a plus de visage.
Voilà. Elle est ramenée à son corps.
C'est pas un viol, c'est un objet.
Bah oui, mais vous savez.
Simplement parler, c'est pas un viol. Un viol, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de mutilation. Ça n'est qu'une femme réduite à son corps. C'est pas un viol.
C'est un aspect du viol. un aspect du viol et la négation du sujet.
Oui, mais là, vous voyez, c'est là où Magritte piège, puisque l'image n'est pas la représentation de la réalité. Voilà, vous voyez, ça déclenche quelque chose, vous voyez.
Sur le plan symbolique.
Oui, il l'a appelé le viol, mais monsieur a dit, c'est pas un viol. Comme tout à l'heure, il y a une pipe, mais c'est pas une pipe. C'est-à-dire qu'il joue de nous, il se fout de nous, Magritte, sans arrêt. Non, mais il nous amène à ce type de situation. Parce que souvent
on a des réactions qui sont... On a des réactions sexuées.
Ouais.
Oui. Moi, je réagis comme un homme. Oui. Et je dis, c'est pas un viol, puisqu'il n'y a pas de viol. Et madame dit, ramener une femme à son corps, c'est un viol.
Oui.
Non, je dis que lors d'un viol, il y a une...
Lors d'un viol.
Il y a une proximité entre le viol et le fait de nier la femme dans son identité. Et ça, le terme viol n'est pas que physique. On sait bien qu'il y a aussi...
Ah ben, il y a le viol psychique, hein.
Voilà.
C'est ça, hein. C'est pas forcément... Puisqu'elle n'a pas de tête. Elle est où, la tête? Donc, il y a aussi le viol. Elle est tétée, il n'y a rien. On a un corps, on a une chevelure. On l'associe à la féminité, la chevelure, mais ce n'est pas forcément féminin, la chevelure. Hein, c'est intéressant. Vous voyez, Magritte, il fait bouger les choses. Voilà. Là, on a eu un exemple typique qui est très intéressant. Il fait vraiment bouger les choses. Voilà. C'est le viol, ce n'est pas un viol. On est tout à fait dans Magritte. Donc, pour moi, c'est une toile qui ne cesse sans arrêt de me questionner, hein, de toute façon. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure en ce qui concerne le peintre Victor Brunner, c'est pas la peine que tu reviennes, hein, Gilles, dessus, que nous avons là dans la salle Fabrice Maz, au fond, là-bas. Fabrice, tu peux te lever, coucou, qui est en train de réaliser un documentaire sur ce peintre roumain, puisque Fabrice Maz travaille avec la fille d'André Breton, qui a créé une collection de DVD. Suite à la vente de toute la collection de son père en 2001, et avec tout cet argent qu'elle a recueilli, elle a créé donc une série de DVD. Pour l'instant, il y a eu des films sur Marcel Duchamp, Wilfredo Lam, Robert Desnos, André Breton, Jacqueline Namba, André Masson bientôt à sortir, et il y a en préparation donc Victor Brunner. Donc, je vous le dis parce que si ça vous intéresse d'approfondir cet artiste roumain, je pense que vous ne serez pas du tout déçus d'aller y voir d'un peu plus près. Alors, il y a Soulage encore. Oh là là.
Il y en a plein d'autres encore. Hein.
Alors Soulage, ici, alors on va parler Soulage parce que moi je l'aime beaucoup, Soulage. Donc, et puis je les aime beaucoup les autres aussi avant, mais bon, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour cet homme. Alors Soulage, on va passer au thème. Voilà. Alors le peintre du noir, c'est comme ça qu'il est appelé, hein, le peintre du noir. Alors on a un homme qui naît sous le signe du Capricorne, le soleil du Capricorne, le soleil dans le monde de Saturne, opposé à Pluton. Là, je me souviens quand j'ai découvert l'étoile de Soulage la première fois, j'ai été sidéré. Le noir, là, c'était plus du noir, là, pour moi. C'était autre chose. Et je me suis dit, ce gars-là, s'il n'a pas un Pluton fort quelque part ou un Saturne, et là, ça a été servi sur un plateau où il y a une opposition au Soleil-Pluton. Bon. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez les directions symboliques, bien entendu. Vous faites progresser le soleil de 5 degrés et il se retrouve à l'opposition exacte de Pluton. Ça correspond à la mort de son père. À l'âge de 5 ans, il perd son père. Vous avez une lune qui est angulaire en 10, puisque après c'est sa mère qui prend la relève. Et également, la lune symbolise sa compagne, puisque sa compagne le suit partout. Elle est d'un très précieux conseil pour lui et il l'écoute beaucoup lors des expositions, des accrochages. Elle est toujours avec lui. Alors, Pierre Soulage est un homme à la dimension de sa peinture. Un peu plus d'1m90, toujours vêtu de noir, un homme d'une grande intelligence, une très grande culture, et très très tôt sa vocation pour la peinture et l'architecture s'est dessinée. Alors il a vécu dans un univers concentrationnaire. Il avait autour de lui une caserne militaire, un commissariat de police, une école et un hôpital. Ça a été l'univers de son enfance, qui est un univers qui est quand même très fermé, qui ressemble étrangement à un monde de Saturne et de Pluton, complètement fermé. Il va faire la découverte de Picasso et de Cézanne. Ces deux artistes vont avoir un très très grand retentissement sur lui. Quand il découvre Picasso, c'est en 1937, Picasso n'a pas encore la renommée il va avoir par la suite, mais il a un choc. Il va commencer à peindre. Il va côtoyer durant une période les artistes Hans Hartung, et Atlan. Et c'est une époque où les œuvres des uns et des autres se chevauchent. Hein. Il y a encore des tons bleus. Des tons. Et c'est en 1979, c'est-à-dire au second retour de Saturne sur sa position natale, qu'il va commencer à peindre des surfaces noires. Et pour lui, le noir, c'est la recherche de la couleur, c'est la lumière. Alors tu peux avancer parce que j'ai dû inscrire une citation, ça m'évite de la... Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Non, en fait, c'est pas ça. On n'a pas d'autre. Alors, vous m'excusez?
Non.
Non, alors, attends. Merci. Je voulais juste vous lire ce qu'il écrit sur le noir. Voilà. J'aime l'autorité du noir. C'est une couleur qui ne transige pas, une couleur violente, mais qui incite pourtant à l'intériorisation. À la fois couleur et non-couleur. Quand la lumière s'y reflète, il la transforme, la transmute. Il ouvre un champ mental qui lui est propre. Alors, il faut savoir que c'est un homme qui s'est intéressé à l'architecture, beaucoup, également énormément à la pensée orientale. Je ne sais pas si vous avez assisté à... T'étais chez Artaud, là. C'est pas tout à fait le même qui... Non, mais c'est rien, t'as les doigts qui ont glissé.
Il y a du monde derrière.
Ah oui, non, mais c'est pour ça que je vais...
Non, je croyais que ça bougeait pas.
Donc là, on est dans le monde carrément de Pluton, une fois de plus, le noir absolu, là. Il y a une très belle rétrospective il y a 2 ans à Beaubourg. Ça correspondait au moment du transit de Pluton sur son soleil natal, d'ailleurs. Et alors, si tu veux avancer... Parce que j'ai mis une dernière œuvre qui m'a frappé. Alors ça, c'est... Ah oui, non, il faut que j'en parle de ça. Parce que là aussi, il y a un événement encore. Toujours dans les gens qui sont fortement marqués par Pluton et qui l'intègrent fortement, il y a souvent un événement moteur et à caractère pratiquement prémonitoire. Là, c'est l'abbatiale de Sainte-Foy de Conques. C'est une abbaye qui fait partie de l'itinéraire de la route de Compostelle. Elle est sur le trajet. Et... Pierre Soulages, à l'âge de 11 ans, va aller visiter cette abbaye avec son prof. Si tu peux montrer l'intérieur, je crois que j'ai dû mettre des repos.
Oui.
Non. Voilà. Et il va aller visiter cette abbaye, et c'est là, dans cette abbaye, qu'il va avoir une révélation. Qu'à la fois sa passion pour l'architecture et la peinture vont se révéler, qu'il va décider de devenir peintre. Sa vocation est là, dans cette abbaye. Bref, les années passent, c'est cool, il devient l'artiste à la renommée que nous connaissons, et on le contacte pour faire les vitraux de cette abbaye. Et évidemment, on l'avait déjà contacté de nombreuses fois avant pour faire des vitraux, il avait toujours refusé, mais là, il ne peut pas refuser. Cette invitation. Il ne peut pas faire autrement d'accepter, parce que là, il y a encore, quelque part, une restitution de ce que lui a donné le message oraculaire, qui est tout à fait propre à Pluton. Et il va faire ces vitraux. Alors après, bon, on peut discuter sur le plan de la tradition, il ne remet pas des vitraux avec les couleurs, donc ça ne laisse pas passer les rayons cosmiques, il y a eu toute une polémique autour de ça, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Ce n'est pas le propos de la soirée. Mais vous verrez encore que là, il y a un travail sur les vitraux. Il faut lire tout le processus d'élaboration qu'il a amené à faire ce travail. Bon, on va filer, peut-être. Hein. Tu me dis, hein, quand il faut lire.
C'est...
Voilà. Alors oui, arrête-toi sur celle-là. Ça fait partie de ces dernières séries à Pierre Soulages. Certaines étaient exposées à Beaubourg, Et moi, ça m'a frappé. Parce que là, subitement, il y a une nécessité de crever la toile pour laisser passer la lumière, tout au moins le blanc. Jusqu'à présent, il n'y a aucune de ces toiles dans ces séries antérieures où il y a ça qui apparaît. Il y avait beaucoup, je ne sais pas si vous y êtes allé, certaines œuvres, les dernières, étaient comme ça. Il y avait des trouées de blanc. Et ça m'a laissé songeur. Je me suis dit, là, c'est peut-être le signe d'une fin, que quelque chose est en train de s'arrêter. Parce qu'il a besoin, là, objectivement, de nous donner à voir la lumière. Donc lui-même a besoin de la faire apparaître, objectivement. Donc j'ai là vu un signe de quelque chose qui est en train de, peut-être, de disparaître, de s'éteindre progressivement en lui. Ce carré blanc, là, qui troue le noir, et en fin de compte, la recherche de la lumière, là, elle est apparente. On n'a plus besoin de chercher, de voir la lumière à travers le noir. Elle est apparente, elle est là, elle essaye de fuser. Et j'ai vu là comme le signe de quelque chose qui tend à s'éteindre et à s'arrêter. Voilà. Dans son processus créatif, hein, s'entend. Hein. Je vais finir par le gamin de Charleville. Arthur Rimbaud. Alors, bon, Arthur Rimbaud, là, on est... Tu veux passer au thème ? Oui, voilà. Donc, vous voyez, balance ascendant balance avec un bel encadrement, conjonction Vénus, là, un soleil, un bel encadrement de l'ascendant, et puis un soleil qui s'oppose à Pluton, un Mercure qui s'oppose à Uranus. Bref, Rimbaud, génie précoce. Alors là, on a un homme qui va, lui, opposer une résistance à tout. Alors, sur cet axe d'horizon, là, nous avons... il y a deux principaux recueils de sa création poétique. Nous avons là les Illuminations. Là, nous avons la Saison en Enfer. Bon, élève génial, hein. Premier prix à toutes les matières à l'école, hein. Composition latine, bref, génie absolument éclatant. Là aussi, lors d'une composition latine, il a 8 ans, et il va écrire dans une composition latine, « Tu vas t'essayer, tu seras poète. Ouais. » Révélation. Son œuvre va être fulgurante, elle va être courte, puisqu'il arrêtera son œuvre à l'âge de 17 ans. Il va tout écrire entre l'âge de 11 ans et l'âge de 17 ans. Et il va faire, lui, de la poésie, évidemment, un acte révolutionnaire. Il a envie de changer la vie avec la poésie. Il dira, la poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Donc il donnait un ordre à l'acte poétique pour transformer également la réalité. Et c'est un génie éclatant qui va être condamné également à un éclatant désastre, en fin de compte. C'est un personnage qui va chercher à pénétrer l'obscurité, à chercher à voir ce qu'il y a derrière le voile de l'apparence. Il écrira sa célèbre lettre du voyant, où il écrit que le poète doit se faire voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Alors, il y a cette formulation a fait long cours, elle a été souvent reprise. Simplement, j'ai souvent remarqué que quand on la reprenait, le mot raisonné était gommé. On parlait du long, immense, dérèglement de tous les sens, mais le mot raisonné était bizarrement retiré. Et Rimbaud, ça va être une résistance constante. C'est-à-dire qu'il va chercher à voir tout en restant conscient. Il va refuser, contrairement à un Augustin le Sage qui lui va s'abandonner complètement au monde de Pluton, lui va carrément opposer une résistance au monde de Pluton. Il va aller vers, mais il va se confronter à Pluton. Ça l'amènera à écrire sur les murs, sur les bancs à Charleville-Mézières, Mère d'Adieu, par exemple. C'est-à-dire que là, on a l'axe d'opposition totale Soleil-Pluton. Dans une saison en enfer, quand il débute son long texte de fleuve, qui est un texte complètement prémonitoire, qui raconte tout ce que va être sa vie quand il va arrêter d'écrire à 17 ans et qu'il va partir au Harar en Abyssinie. Et il ouvre la saison d'enfer en disant « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où tous les vins coulaient, où tous les cœurs s'ouvraient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis enfui, je me suis armé contre la justice, aux sorcières, aux misères, aux haines, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine, sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. Le malheur a été mon dieu, je me suis séché dans la boue, à l'air du crime, et j'ai joué de bons tours à la folie. » Bon, bref, le texte est très long, mais on a déjà, là, tout est planté dès le départ. Et il va rencontrer Verlaine, il va adresser ses poèmes à Verlaine. Verlaine va être le premier à lire le génie de Rimbaud. Il va lui demander de le rejoindre à Paris, pour le meilleur et pour le pire, pour lui. Il lui dira « Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend. » Rimbaud va débarquer à la gare de Strasbourg, qui est maintenant la gare de l'Est. Il va rejoindre le club des vilains bonshommes. À l'époque, c'était les réunions de banquet. Vous avez la toile de Fantin de la Tour qui représente ce banquet. On voit Verlaine et Rimbaud qui sont assis sur un côté. Verlaine va être fasciné par Rimbaud, va être le seul à comprendre sa poésie. Mais le problème, c'est que lui, Rimbaud, a l'impression d'être compris par personne, et c'est vrai qu'il le sera, compris par personne. Car il faut savoir que quand il débarque à Paris, il est jeune, il a 14 ans, il a en poche Le bateau ivre. Ce poème, absolument, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les haleurs, etc. Et il est tout content, le jeune Rimbaud, il dit, j'ai un super poème, je vais le lire à des gens qui vont me comprendre, au moins fini la solitude de Charleville-Mézières, ce trou à rats, où il disait, ma ville supérieurement idiote entre toutes les villes de province, il est fou de joie, il va rencontrer au moins des interlocuteurs qui vont le comprendre. Et il lit son poème, et là, c'est le bide total. Les autres ne comprennent rien du tout à ce qu'il leur raconte. Et là, c'est évidemment la déception totale, et c'est la révolte. Parce que Rimbaud va se révolter. Il ne va pas se résigner un seul instant, il va se révolter. Et là, il va devenir infréquentable. Totalement infréquentable. Il aura des altercations avec Étienne Carjat. Verlaine, bien évidemment, c'est le meilleur et pour le pire pour lui. Là, c'est pareil. Dans la relation amoureuse homosexuelle qui a uni Verlaine et Rimbaud, c'est pareil. Pour lui, l'homosexualité faisait partie du long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Il écrira dans la saison en enfer, « Je me fais cyniquement entretenir, je m'en crapule. » Il était d'une hyper-lucidité, mais d'une lucidité telle que ça l'a conduit à son éclatant échec. Et il sera lucide sur son échec. Parce qu'il dira, « J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Moi qui me suis dit ange ou démon, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à accomplir et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan. » C'est-à-dire qu'il était paysan au départ, là-bas, à Charleville, et d'un seul coup, il est rendu à sa condition de paysan, c'est-à-dire que c'est l'éclatant échec de quelqu'un qui a voulu voir, tout en restant conscient, qui a voulu faire de la poésie une arme révolutionnaire pour transformer la vie, et ça a été évidemment un éclatant échec. Et il est allé, ensuite, il a voyagé, il a fait Londres, Bruxelles, il est allé se réfugier en Abyssinie, au Harar. Là, il va devenir négociant, un bien piètre négociant. Il va trafiquer avec le roi Ménélique en Abyssinie. Il deviendra trafiquant d'armes, trafiquant d'esclaves. Il n'est pas très cool, Rimbaud. C'est pas un personnage très facile. Hein. C'est pas on est devant quelqu'un d'une très grande dureté, en fait. Il ressemblait étrangement à sa mère, qu'il a toujours maudit. Et alors, il a une fin de vie qui est terrible. Il est atteint de syphilis, il a une gangrène et il est rapatrié en France. Et il va traverser un long périple de désert sur une civière où il va souffrir le martyr. Et il aura une ceinture d'or accrochée à la taille qui va le faire souffrir. Et dans la saison d'enfer, il avait écrit « Je reviendrai couvert d'or, les femmes soignent ces féroces soldats autour des pays chauds. » Alors il est revenu couvert d'or, mais malheureusement pas comme il le croyait, puisqu'il pensait qu'il serait mêlé aux affaires politiques, sauvé, mais il n'a pas été sauvé. Il est revenu, il a été alité à l'hôpital de la Conception, le paradoxe, il est mort à l'hôpital de la Conception, avec sa sœur Isabelle à son chevet, et il lui dira avant de mourir, « Moi j'irai sous la terre et toi tu marcheras dans le soleil. » Ça a été les dernières paroles qu'il lui a dites avant de s'éteindre. Et là on a toute la valeur de la poésie de Rimbaud, la conjonction Vénus-Lune en balance en 12. Alors on ne lui connaît pas de vie sentimentale du tout. On peut être surpris avec une conjonction Vénus-Lune 12 en balance, mais c'est dans la maison 12. Et puis il ne faut pas oublier aussi que derrière la balance il y a Saturne qui veille également. Donc pour lui, là aussi, il y a quelque chose qui devient totalement asexué, en fait. C'était le passant considérable, comme l'avait appelé Mallarmé, le mystique à l'état sauvage, Paul Claudel, et le voyageur aux semelles de vent, comme l'avait baptisé Paul Verlaine. Alors, ce qui est intéressant, je dis toujours que les poètes... nous donnent à lire pour mieux voir et que les peintres nous donnent à voir pour mieux lire. C'est toujours intéressant d'étudier donc l'œuvre d'un poète au regard de son thème, parce que quand on lit par exemple toute l'œuvre de Rimbaud, à certains passages de son œuvre, on voit les configurations se dessiner. C'est tout à fait troublant. Voilà. Écoutez, je ne vais pas pouvoir tous les passer en revue parce qu'il en restait d'autres.
Non, mais c'est déjà formidable.
Dommage, une embauche.
Merci, Armand. Merci. Est-ce que tu souhaites prendre quelques questions des gens?
S'il y a des questions, oui, mais. Oui, bien sûr.
Il a tellement d'idées et tellement de choses qui sont passées que peut-être vous avez beaucoup de choses à dire.
Eh bien non, vois-tu. Plutonisé.
Voilà, c'est ça.
Plutonisé.
Ah voilà.
Si, il y a quelqu'un.
Une question. Ah. Une information. On peut voir les œuvres d'Adrien Le Sage.
Oui.
À l'Union Spirite, rue Jean-Jacques Rousseau.
Ah oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup.
Je crois qu'il y en a deux ou trois.
Ah oui.
Les premières qu'on a vues peuvent se voir sur Paris.
D'accord. Oui, rue Jean-Jacques Rousseau, oui, c'est vrai, là. Oui.
Vous avez Paris,
Oui, c'est vrai.
C'est dans la première, en rendez-vous.
Oui, c'est ça, oui. C'est vers Palais Royal, par là. Oui, ben, il y a des... Il y a des réunions spiriques là-bas, il y a des trucs.
Des conférences. Ouais,
des conférences.
Ouais.
Bien écoutez, merci de votre attention. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé.
Non, je crois que les gens sont très très pleins, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions.
Tant mieux.
Beaucoup de matière. Voilà.